France Musique.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve lundi prochain avec vos invités en direct de l'hôtel Bedford à Paris. Et bon week-end à vous.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone et pour le potentiel.
France Musique, tapage nocturne, prenons le tor.
C'est le compositeur Pascal Gaigne qui sera notre invité, compositeur qui a poli avec talent ses multiples facettes, de la musique électroacoustique à la musique de film, du concert à la danse. Mais ouvrons cette émission avec une page consacrée à l'actualité, et plus exactement au festival Aujourd'hui Musique qui a ouvert ses portes ce soir. Et pour nous parler de cet événement, nous avons reçu sa directrice, Jackie Surjucollet. Bonsoir Jackie Surjucollet.
Bonsoir.
Alors, nouvelle édition du festival Aujourd'hui Musique avec un sous-titre pour la seconde fois, création visuelle et sonore. Est-ce que vous sous-entendez que le sonore n'est plus suffisant pour attirer un public ?
C'est une bonne question. Je ne suis pas certaine. C'est en fait l'évolution des choses, l'évolution dans la création des compositeurs qui mettent de plus en plus en avant la dimension visuelle de leurs œuvres. Et le festival est toujours attentif à la musique de son temps, mais aussi à cette musique qui tisse des liens avec d'autres expressions contemporaines, aux compositeurs qui font de plus en plus de propositions de représentations, non dans des formats classiques, plutôt des formats originaux, et des compositeurs qui assument pleinement le continuum entre le sonore et le visuel. Donc on est en plein dans ce qui se passe aujourd'hui avec les technologies, les techniques d'aujourd'hui.
Fêter les 80 ans de Fil Glas, comment vous allez articuler cet événement ?
Alors c'est l'ouverture du festival avec les forces vives du conservatoire. Donc 80 ans en 2017, ça paraissait évident de faire un hommage à Philip Glass. Et là on est dans la musique, on va dire la musique pure, mais il y a aussi du visuel parce que c'est un grand orchestre. Donc avec un travail sur évidemment la lumière que l'on est en train de mettre en place. Et donc, les deux concerts pour piano, concerto pour piano qu'il a écrit en 2000, qui illustrent bien l'évolution du style de Philip Glass, de la musique minimaliste à des pages beaucoup plus lyriques. Donc là, une ouverture, orchestre, Daniel Tosi à la direction. Et puis ensuite, le reste du festival se déroule avec d'autres propositions plus croisées.
Thank you. Alors, le festival est né au sein du Conservatoire de Perpignan. Aujourd'hui, vous avez élu domicile ailleurs, au Théâtre de l'Archipel. Est-ce qu'il y a encore des liens forts? Oui, vous venez de répondre en partie, entre le Conservatoire et le festival.
Il y a des liens forts, bien sûr, mais il y a aussi, surtout, des liens forts avec le territoire. Je pense, par exemple, au concert Crossing Point, qui est porté par l'ensemble Flashback. Le compositeur Alexander Vert, qui a étudié au Conservatoire de Perpignan, qui est installé à Perpignan et qui rayonne bien au-delà. Donc moi, j'essaie toujours d'être attentive aux propositions qui viennent de Perpignan et des alentours et de faire ces croisements-là avec d'autres propositions qui viennent d'ailleurs, d'autres formats, d'autres formules.
Vous laissez d'ailleurs une grande place à l'installation et à la déambulation sonore.
Oui. On est dans un très grand lieu au Théâtre de l'Archipel. Donc on a mis en place des déambulations sonores. Les visiteurs s'inscrivent et ils font un parcours au sein de cet énorme lieu, cet énorme bateau qui est le Théâtre de l'Archipel. C'est une manière une relecture des espaces. C'est aussi une manière d'accéder aux espaces qui ne sont pas publics habituellement. Mais cette visite-là est ponctuée d'installations sonores, souvent des commandes que nous on a faites, que le festival a fait à des artistes, des concerts de poche, moi j'appelle ça des surprises sonores. Par exemple, on aura François-Michel Rignol qui va jouer les études de Philippe Glass au piano, mais là le piano sera installé en arrière-scène, côté backstage, pour être un peu comme ça dans un autre univers. Donc ces visites-là, elles sont patrimoniales bien sûr, mais installation participative, des pépites sonores et l'accès à des répétitions ouvertes.
L'année dernière, vous aviez fait venir Jean-Paul Decy, le violoncelliste belge. Vous l'aviez suspendu dans une salle tout en haut du Théâtre de l'Archipel. Et vous recommencez cette année?
Alors voilà, on a tenté cette expérience l'an dernier puisque c'était un récital violoncelle au lever du soleil et au coucher du soleil. Ça a eu énormément de succès. Donc pour moi, ça renforce mon idée que le public a envie de vivre autre chose, de vivre le spectacle de manière totalement différente. Donc on recommence avec Marie Ithier, avec des pièces à la fois de les suites pour violoncelle de Bach et des pièces de compositeurs contemporains, pour trois quarts d'heure dans un espace qui est totalement magique, qui a 27 mètres de hauteur, entouré de baies vitrées. Donc on est un peu dans les nuages, ça porte à la rêverie et à partager un moment convivial et plutôt sympathique.
Certaines de vos programmations se calquent sur des formes de résidence d'artistes.
Oui, c'est très important. On a le lieu qui a des espaces suffisants pour accueillir. Le Théâtre de l'Archipel, c'est un espace de création, de diffusion, d'expérimentation, mais aussi de résidence et de transmission. Donc on accueille des artistes qui imaginent en fonction du lieu la proposition qu'ils pourraient me faire sur scène au cours du festival.
Alors parlez-nous un peu des focus de ce festival.
Alors les focus, il y en a plusieurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc le grand moment fort de rentrée avec Glass. Mais on a aussi le spectacle Crossing Point avec deux créations. Il y a une commande que j'ai faite à Pierre Jolowski et une commande à Alexander Vert et à José Miguel Fernandez. Il y a aussi les percussions de Strasbourg qui viennent avec Gosland, à nouveau une pièce de Pierre Jolowski, où les percussions de Strasbourg théâtralisent leur jeu, c'est-à-dire jouent aussi bien de percussions classique, traditionnel, mais de percussions virtuelles et d'attaché case, par exemple. Donc comme ça, des aventures sensorielles qui nous amènent totalement à un autre endroit. Moi, j'aime bien les compagnonnages, c'est-à-dire que Pierre Jolowski a été invité plusieurs fois au festival, et là, on a deux rendez-vous avec lui. Au plateau, il y a Philippe Spisser, percussionniste, enseignant au Conservatoire de Perpignan, mais aussi qui joue de par le monde. Il y a Roland Osé aussi, avec Jérôme Thomas. Moi, j'aime beaucoup ces histoires qui durent un temps pour faire davantage connaissance et aller plus loin dans le domaine de la création.
Musique, c'est pour deux semaines jusqu'au 26 novembre à Perpignan.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Pascal Gaigne est un musicien aux facettes plurielles dont l'itinéraire croise avec délicatesse la danse, le concert, l'électroacoustique et depuis longtemps maintenant le film pour lequel il a signé plus de 80 partitions dans lesquelles il expérimente un langage bien à lui. Né à Caen mais plus basque et catalan que tout autre, cet étonnant compositeur ne cesse de surprendre l'auditeur par ses expérimentations versatiles. Pascal Gaigne est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Pascal Gaigne.
Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, ça faisait longtemps que je voulais vous inviter, car je me souviens de mes débuts à la radio. Et j'avais découvert un nouveau disque que j'avais diffusé à l'époque. Et j'ai été très attentif à votre parcours, qui est façonné de multiples facettes, de la musique électroacoustique à la musique pour l'image ou à la musique pour la scène. Est-ce que vous différenciez ces activités ?
Non, c'est un petit peu... J'ai mis du temps à trouver un petit peu ce que je voulais faire, en fait. J'ai essayé plein de choses. J'ai passé... aussi bien en écrivant de la musique qu'on appelle contemporaine, musique de création. Je suis passé dans des big bands de jazz, j'ai fait de la musique folk, j'ai fait du blues du Mississippi, jusqu'à trouver une voix un petit peu qui intègre un peu tout ça. En grande partie, la musique de film a été un peu un vecteur qui m'a permis d'exprimer un peu tout ça. Et aussi parce que je voulais pas m'enfermer dans un genre où je trouvais que c'était un petit peu restreint, donc ça a été un peu comme disait Pierre Boulez, par volonté, par hasard, quoi. Beaucoup de hasard surtout.
Alors, en regardant plus près votre parcours, j'ai découvert des choses étonnantes, comme cette résidence au Bénin.
Oui.
Vous rendez là pour vous intéresser de plus près au rythme vaudou. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience. Et qu'est-ce que ça a donné derrière?
Ouais, c'est une expérience qui vient de film que j'ai fait avec un réalisateur qui s'appelle Omer Oké, qui est de Béninois, de Porto Novo. Et donc, on a fait deux films ensemble, et ensuite, il m'a invité parce qu'il était en train de monter un centre de formation cinématographique à Porto Novo. Et donc, il m'a invité pour un peu m'occuper de la partie musique, etc. Sauf que quand je suis arrivé, le centre n'était pas fini de construire. Ça, il me l'avait pas dit, mais enfin bon. Et donc, on avait deux semaines devant nous et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et donc, je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresserait, parce que c'est en pleine zone du vaudou, je lui ai dit, ce qui m'intéresserait, c'est d'apprendre sur la musique vaudou. Et on a passé deux semaines à travers d'intermédiaires. C'était assez compliqué, mais enfin, on a réussi. De cérémonie vaudou en cérémonie vaudou, et j'ai découvert des choses absolument incroyables, quoi. Surtout pour les rythmes, hein. Il y a tout ce qui est poulet à la tête tranchée, j'ai pas vu, parce que c'est un peu c'est plus en Haïti. Mais il y avait des choses absolument incroyables sur les rythmes, j'ai beaucoup parlé avec les musiciens, et on a fait un petit documentaire, enfin celui qui l'a fait, mais qui était un petit peu depuis le départ dans la forêt des arbres, de la coupure des arbres, jusqu'à la construction des tambours, et aux cérémonies vaudou, et la cérémonie certaine en transe, etc., etc. J'ai appris énormément de choses, là.
Il y a une particularité rythmique?
Il y a un truc incroyable, qui m'a beaucoup étonné au début, c'est que la première cérémonie où je suis allé, je me suis dit, mais ils jouent pas ensemble. C'est un peu la mentalité cartésienne qu'on peut avoir. Je dis, mais ils jouent pas ensemble, ils sont pas en rythme. Et la deuxième, c'était pareil. Et là, j'ai quand même demandé aux percussionnistes comment ils font. Et en fait, il y a un axe central qui est fixe, quoi. Et le reste flotte, cette espèce de flottement rythmique. Et c'est ça qui provoque un petit peu l'entrée en transe. C'est pas du tout ça n'a rien à voir avec des machines qui pourraient jouer. Il y a toujours une espèce de flottement dans le rythme, une base, et le reste flotte autour, quoi. Et ça provoque un peu une situation de je sais pas comment expliquer ça, enfin c'est absolument hors réalité quoi. Et surtout que ça dure des heures et des heures, quoi, faut quand même penser.
Vous l'avez intégré à votre écriture ?
Oui, je pense que c'est des choses où, je pense que toutes les expériences que j'ai pu avoir un peu partout, je les intègre à un moment ou à un autre quoi. J'ai fait une autre expérience en Égypte, un peu dans le même genre, qui a été intégrée dans des musiques après, que je peux réintégrer soit dans les travaux que je fais avec des artistes pour qui je travaille comme arrangeur ou producteur, ou dans mes musiques de film, suivant l'occasion fait de la ronde dans ce cas-là.
Mais justement, j'ai vu ça, cette expérience égyptienne. Peut-être nous raconter, parce que c'est finalement assez rare, des musiciens occidentaux qui viennent se marier comme ça à des ensembles égyptiens.
Oui, c'était en fait... C'était à travers d'une chorégraphe avec qui j'ai travaillé longtemps, qui était en résidence là-bas. Et elle m'a invité pour faire la musique sur place d'un ballet avec des textes donc, en arabe littéraire. Elle et un autre danseur, et donc moi qui faisais la musique en direct, je suis resté un mois et demi. Et avec des musiciens locaux, enfin bon, c'était...
Qu'est-ce que vous avez découvert là aussi ?
Ouf ! C'est assez long à expliquer, mais je pense que toute aventure... Moi, ce que j'aime, c'est j'aime pas le tourisme, j'aime les aventures musicales, j'aime le tourisme en travaillant comme ça pour moi et en communiquant avec les gens. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des fabricants de canoës. Ça a mis deux jours pour trouver où il était à travers.
Vous avez joué aussi un petit peu.
Un petit peu, oui, parce qu'il m'a donné. C'était extraordinaire. La première classe avec lui dans son. C'est un ancien musicien de l'époque de Nasser, qui était un type très 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 connu, quoi, et qui maintenant se dédiquait à fabriquer des canoës. Et donc, la première chose que j'ai fait, quand j'ai vu l'instrument, j'ai fait un accord, je ne me rappelle plus si c'était un accord de majeur ou mineur, et il m'a dit, où est-ce que tu as appris ça? J'ai dit, tu sais, chez nous, c'est quelque chose d'assez habituel, il n'y a pas d'harmonie dans la musique arabe. Quoi, donc il était étonné, il me dit ça, il y a quelque part en Turquie, il y a quelqu'un qui joue comme ça, mais en principe, c'est pas... On apprend plein de choses, quoi, c'est extraordinaire. Là. Je pense que la musique est un vecteur extraordinaire de communication partout, quoi.
Sur votre site, vous avez mentionné une phrase de Debussy, « N'écoute les conseils de personne, sinon du vent qui passe et qui nous raconte les histoires du monde ». Comment vous entendez cela ?
Ben, comme c'est-à-dire qu'il faut apprendre, et puis à un moment, il faut ne plus apprendre, il faut suivre son instinct, son intuition, il ne faut pas trop être académique, il faut sortir un peu des sentiers battus, essayer d'autres choses. C'est un peu l'idée, je pense. Je pense que c'est ça, quoi. Autour de nous, il y a tout, quoi. Donc, bon, il y a une partie d'apprentissage, comme tout, mais il y a un moment où il faut dire, oh, ça suffit, quoi. J'en sais assez pour me lancer dans mon propre langage, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à apprendre. Hein. Il faut d'autres choses, d'autres univers qui sont toujours intéressants. La musique, moi, je dis toujours ça, bon, c'est un peu. Toutes les musiques m'intéressent, c'est presque vrai. J'ai appris beaucoup de choses partout, quoi. Que ce soit des musiques urbaines ou des musiques de jazz ou la musique contemporaine, la musique classique, le folk, les musiques traditionnelles. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans la culture de chaque musique qui correspond au peuple, qui correspond à une situation, qui correspond à un état d'esprit sur lequel on est susceptible d'apprendre des tas de choses, quoi, pour sa propre musique.
Or, vous êtes né à Caen.
Oui, par hasard.
Par hasard. Votre père était militaire, mais la culture basque est un élément essentiel de votre vie, de votre langage.
Oui, parce que j'étais très jeune. J'étais, en fait, vers l'âge de 15-16 ans, j'habitais à Bayonne. C'était une époque assez mouvementée au Pays Basque. Et ensuite, moi j'étais déjà musicien à l'époque, je faisais déjà des concerts. Et donc, de fil en aiguille, évidemment, on s'est rapproché des mouvements politiques, des chanteurs de l'époque. Donc, c'est là que j'ai connu Imanol, j'ai connu Béniat, Chiari, toute cette époque-là. Donc, pour moi, c'était une évidence, on était dans le bain. Même si j'avais aucune idée politiquement de ce qui se passait, quoi. J'étais complètement. J'étais un gamin, quoi. Je savais même pas que le Pays Basque avait. Quand je suis arrivé au Pays Basque, je savais même pas que ça revendiquait une identité, quoi. C'était quelque chose pour moi, je comprenais pas. Hein. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. Donc, mais bon, c'était un endroit assez fascinant, c'était une culture assez intéressante. Puis c'est là que j'ai fait un peu mon école, quoi. Donc j'y suis revenu. Thank you.
Vous avez enseigné également.
Ouais, c'est un peu anecdotique, ouais. La musique électroacoustique à Toulouse. Ouais. Ouais, mais c'est pas trop mon truc, l'enseignement. Je suis trop instable.
Comment vous voyez justement ce mariage entre électroacoustique et écriture instrumentale?
Alors, je pense que, bon, moi, quand j'ai appris l'électroacoustique, c'était un monde un peu à part. C'est sûr que la technologie nous a rattrapés, là, complètement. C'est-à-dire que de là où on est, de là où on vient, bon, je sais pas l'époque chez Fer, mais un petit peu après, quand même, où on est maintenant, bon, ça peut rien avoir, même si je pense que l'intégration mécanique, l'intégration a été faite de la musique, enfin, des instruments, plutôt que du fond de la musique même. C'est un peu ce qui est, je pense un peu tristant, c'est pas tristant, c'est comme ça, quoi. La musique, les instruments électroniques, vraiment, maintenant, on dépend complètement d'eux, on y travaille en permanence. Mais le fond de la musique, la philosophie un peu de la musique qui venait de là, je pense que ça s'est un peu perdu en même temps, quoi. Mais on retrouve ça, par exemple, dans le cinéma, dans le sound design, qui est en train de prendre beaucoup plus de place que la musique, très souvent, quoi. Et là, il y a un travail d'électroacoustique, comme on faisait il y a 20 ans, avec des méthodes plus modernes, mais enfin, bon, c'est le fond est le même, là.
Alors, ce qui est incroyable, vous parlez de musique de film, c'est que quand je regarde votre filmographie, elle est extraordinaire de par le nombre de films que vous avez réalisés.
Ben, une centaine, je crois. Par là. Ben, c'est comme ça, il y en a qui aiment travailler.
Dans des esthétiques très très différentes.
Oui, absolument. Absolument. Ben, c'est pareil, le cinéma est une expérience. Alors, c'est une expérience parce que chaque film est un monde à part. Et ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec le réalisateur. Je mets la musique de film complètement à part de la musique. Je pense que c'est quelque chose qui n'obéit pas à des lois seulement musicales, quoi. Ce qui est important, c'est la musique et l'image et le scénario et les acteurs. Et c'est un tout, quoi. Il y a pas du tout de critères. C'est pour ça que c'est très difficile de former des gens sur la musique de film, parce qu'en fait, il y a pas de loi, quoi. On peut mettre n'importe quelle musique avec n'importe quelle séquence d'image, et il se passe quelque chose intéressant ou pas, mais il se passe quelque chose en dehors du phénomène musical. Donc c'est quelque chose d'assez curieux. Et l'expérience est intéressante parce que c'est une découverte de personnes, c'est une découverte d'univers, c'est une découverte absolument incroyable, quoi. Intéressante ou pas, où il y a une partie un peu fonctionnelle. Tant bien dans la musique de film, on fait beaucoup de choses qui, après, on regrette de les avoir faites. Enfin bon. Ça reste encore quelque chose qui me fascine assez profondément, quoi. L'expérience de la musique.
Quel était votre premier film?
Mon premier film, c'était Sargatik Pampoche. Alors, c'était un téléfilm basque, Pourquoi Pampoche, que j'avais fait donc avec Amaya, la chanteuse basque.
Avec qui vous aviez fait déjà des disques?
Oui, on avait fait plusieurs disques ensemble, qui étaient un petit peu très différents de ce qui se faisait à l'époque. On avait un premier disque, non, qui était assez folk, un peu moderne, mais le deuxième disque avec un big band de jazz, était dans les années 80, c'était... Au Pays Basque, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait, quoi. Donc, on avait fait ce film qui était la personne qui avait écrit le livre d'origine du film était une amie de Amaya. C'était un livre très connu au Pays Basque, quoi. C'était un téléfilm, hein, c'était un modeste téléfilm. Mais je pense que j'ai fait ça comme en pensant, bon, voilà, on fait ça, puis point, quoi. Thank you.
Aujourd'hui, quel est le quotidien de Pascal Gaine?
Voilà. Le quotidien, ben, c'est beaucoup enfermé dans mon studio, en train de travailler pour le cinéma. Pour le cinéma, et dès que j'ai un peu de temps, je m'échappe à faire des compositions libres. C'est nécessaire, c'est utile, c'est indispensable.
Vous êtes très lié au cinéma espagnol, de manière générale.
Absolument, oui. Le cinéma espagnol et sud-américain, un peu.
Et le cinéma français, nous, j'ai jamais vraiment fait du pied.
Ben, c'est compliqué. Bon, j'ai fait un film en France qui est Le coup de la girafe de Safi Nebbou, mais Safi Nebbou est un ami d'adolescence, donc ça vaut rien, quoi. Je veux dire, c'est pas bon. Comme j'ai essayé, mais le problème du cinéma français, c'est qu'il est très centralisé à Paris, et même extrêmement centralisé. Donc, et à Paris, il y a beaucoup de compositeurs extrêmement compétents. J'en connais quelques-uns, donc je comprends bien que pour les productions, appeler un compositeur, même français, mais qui habite en Espagne, c'est pas le plus simple possible. Donc, il faut vraiment que ce soit pour des raisons d'esthétique, quoi. En disant, bon, mais je veux ce compositeur parce que c'est une esthétique qui me convient, quoi. Même dans ce sens-là, c'est pas facile, quoi.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment?
En ce moment, je viens de faire on vient juste de présenter au Festival de Saint-Sébastien un film qui s'appelle Andia, le géant. Je sais pas comment il s'appellera en français, mais. Ce sont des gens qui ont fait, il y a pas longtemps, un film qui s'appelle L'Oréac, Fleur, qui était, donc c'était le premier film basque qui était présenté comme représentant l'Espagne pour les Oscars, donc c'est un événement. Et là, c'est leur nouveau film qui a gagné le grand prix du jury à Saint-Sébastien. Bon, c'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps, depuis les courts-métrages. Et ensuite, je vais attaquer un autre film, enfin, j'ai déjà attaqué en même temps, qui est un film, alors comment expliquer ça? C'est un film sur la danse basque, mais c'est pas un documentaire ni un film. C'est un film de création à partir de la danse basque. Ça va s'appeler Danzas.
En tout cas, merci beaucoup Pascal Gaine d'être venu nous voir dans ce.
À vous, c'était un grand plaisir.
Et à bientôt.
À bientôt. Thank you.
France Musique, Tapage nocturne, Bruno Le Thor.
Thank you.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Jean-Louis Deloncle, attaché d'émission Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est temps de retrouver Anne Montaron et ses créations mondiales.
À réécouter sur francemusique.fr.